Alors, si je vous dis, par rapport à référence à tout ce qu'on a vu, tous les hommes, je commence cette phrase, est-ce que vous connaissez la suite? Tous les hommes sont sauvés. Autre proposition, tous les hommes sont rachetés. Pécheurs.
Égaux.
Pécheurs.
Ouais.
Par rapport à tout ce qu'on a vu ces messages derniers, là, c'était, on peut dire ça, pendant 4 semaines, on a appris que tous les hommes étaient pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs. Et la semaine dernière, on a vu, tous les hommes sont pécheurs. Ils sont séparés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, être victime propitiatoire. Alors, on a vu tout ça la semaine dernière. Au chapitre 4, l'apôtre Paul, il mélange un petit peu différents sujets et c'est très, très riche. Et quand vous faites, peut-être je vais enlever le masque, voilà, je serai plus à l'aise. Quand vous faites la lecture de ce chapitre 4, il va y avoir quelque chose qui va surgir devant vous comme ça. Ça peut être une chose, ça peut être l'autre. Il va reprendre ce qu'il a dit, approfondir ce qu'il a dit par rapport à la justification par la foi qui est biblique. Et là, il va prendre l'exemple d'Abraham et de David. On va voir ça. Que ce n'est pas un sujet de fierté également, que ça n'abolit pas la loi. On va voir une illustration. Que la foi est pour tous. Ça, l'apôtre Paul y tient beaucoup. Et il avait beaucoup insisté. C'est les versets d'avant que vraiment la foi c'est accessible à tout le monde, c'est ouvert à tous. Et il va reparler de tout ça, il va le démontrer, juif ou pas juif. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau, on va parler du bonheur. Le bonheur que procure le pardon. Le pardon de Dieu procure le bonheur. Et on va voir, peut-être vous dites, mais la foi, qu'est-ce que c'est concrètement? Je voudrais savoir cette fameuse foi dont on parle, c'est quoi concrètement? Et l'apôtre Paul également va nous parler de ça à travers la vie d'Abraham. Donc le titre du message d'aujourd'hui, le bonheur de la justification par la foi est aussi pour nous. C'est comme ça que j'ai résumer ce passage, le bonheur de la justification par la foi est aussi pour nous. Alors, prenons les premiers versets de notre passage. Je lis dans la version de Colombe. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre ancêtre, selon la chair, qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, par ce qu'il a fait, il a sujet de se glorifier et d'être fier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et ça lui fut compté comme justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est compté comme une grâce. Mais, pardon, celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme quelque chose qui est dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Donc les Israélites à ce moment-là étaient un peuple très fier de ce qu'ils étaient, parce qu'ils étaient des descendants d'Abraham. Et Abraham, à ce moment-là, dans la littérature de cette époque, c'était vraiment l'exemple suprême, hein. C'était le premier qui adorait, le premier vrai adorateur, le premier prédicateur. C'était un modèle de piété, c'était un modèle d'homme vertueux. C'était un homme actif et habile. Et en fait, plus les Israélites élevaient Abraham, la figure d'Abraham, plus ils s'élevaient eux-mêmes. Parce que, comme ils étaient les descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Et là, l'apôtre Paul se plaît à rappeler que Abraham, ce n'est pas par les œuvres qu'il a obtenu la justice. La foi n'est pas en effet un sujet de fierté. Paul le dit que aussi haut qu'il peut être Abraham, ben, aux yeux de Dieu, tout cela ne lui avait servi à rien, parce que la justice qu'il a obtenue, c'est pas à cause de ses traits de caractère, c'est pas parce qu'il était super, mais c'est pas que simplement parce qu'il a cru Dieu. Et il faut nous débarrasser de ce quelque chose qui est en nous et qui nous murmure toujours que voilà, on mérite quelque part la faveur de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui est bien et qui mérite cette faveur de Dieu. Ou bien cette idée que chez les autres, ah ben chez les autres, eux, vraiment, ils sont bien, ils ont la foi, ils avancent avec le Seigneur parce qu'ils sont bien et ils méritent ça, et ils sont mieux que moi. Donc, l'une et l'autre des idées, on doit s'en débarrasser. C'est simplement par la foi. Abraham était un homme extraordinaire, mais la justice qu'il a eue, c'est pas par ses œuvres, c'est pas par sa vie, c'est par la foi. Et les Israélites de ce temps-là n'étaient pas sans doute très lucides sur tous les manquements qu'il y a eu dans la vie d'Abraham. Et quand on avait vu ça il y a 2 ans, on a vu vraiment qu'il a, comme on dit, raté des marches. Hein, ça n'a pas toujours été aussi brillant que ça. En tout cas, Abraham a cru Dieu, c'est tout ce qu'il a fait. Abraham a cru Dieu, c'est tout ce qu'il a fait. Et Dieu nous aime. Et il n'a pas besoin d'attendre ce qu'on doit faire pour nous aimer. Il n'a pas attendu qu'on soit super pour nous sauver. Le passage suivant parle du bonheur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un film, je ne sais pas quand est-ce, il est sorti avec Will Smith, À la recherche du bonheur. Est-ce que vous avez vu ce film? Il y a c'est un monsieur avec son petit garçon et il ne s'en sort pas dans la vie. C'est une faillite, son foyer se casse la figure et il veut essayer de rebondir et il s'inscrit pour un cours, pour un stage de trader, parce qu'il a vu que les traders gagnent beaucoup d'argent, et seulement ce stage il n'est pas rémunéré et il galère vraiment. Il est SDF avec son fils de 5 ans et on le suit son long périple jusqu'à ce au moment où il est sorti major de sa promo de stagiaire, c'est-à-dire, autrement dit, en tant que trader, celui qui a fait gagner le plus d'argent, et donc ça lui donne le droit à une place dans cette société en tant que trader à part entière. Et là, il dit, c'était la fin du film, qu'il connaît quelques minutes de vrai bonheur. Et l'acteur Will Smith rend ça très très bien. Les quelques minutes de bonheur après une vie de galère à chercher à s'en sortir. Alors on peut dire qu'il a eu de la chance et qu'il l'a bien mérité. Mais ce n'est pas de ce bonheur-là, visiblement, que nous parle Dieu. Versets 6 et 8. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Heureux. Être déclaré heureux, non pas par les hommes, mais être déclaré heureux par Dieu lui-même. Pensez peut-être au psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous pensez peut-être aux béatitudes de Jésus-Christ, la 6e béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les péchés sont ici couverts. Et pourquoi Dieu ne voit plus les péchés? ils sont couverts. Ils sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Et quand Dieu nous voit, il ne voit plus les péchés que l'on commet, que l'on a commis. Il nous voit couverts par la justice de Jésus-Christ, par son sang qui a coulé sur la croix. Jésus-Christ est la victime propitiatoire. Alors, l'expérience de la conversion est une expérience de bonheur unique. C'est une rencontre avec Dieu quand la séparation du péché est ôtée. Et lorsque l'on goûte cette rencontre avec lui, grâce à l'expiation de nos péchés par Jésus-Christ. C'est une expérience de bonheur qui est difficile à décrire. Et dans le psaume, ces passages sont tirés du psaume 32. Le psaume 32. Et on va en faire la lecture maintenant. Alors les psaumes, il y avait de la musique avec. Hein. On n'a que les paroles des psaumes, on n'a pas la musique. Comme on est dans un message qui est un message d'évangélisation, j'ai choisi une musique pour l'introduire, qui n'est pas par un homme chrétien, ou pas ce que j'en sache. C'est une petite texte de petite musique de un petit chant de Gilbert Bécaud. Je vais vous faire écouter un extrait. Il a chanté quelques chants chrétiens dans son répertoire. Il y a de très beaux chants. Il y en a quelques-uns qui sont chrétiens. Je ne pense pas qu'il ait rencontré le Seigneur, mais en tout cas, on peut dire qu'il est passé assez proche. Et je vais vous faire écouter l'extrait d'un chant, le début d'un chant qui s'appelle « Un homme heureux ». Dans ce chant, Gilbert Bécaud rencontre un homme heureux. Ce qui est intéressant, c'est la façon joyeuse dont il le décrit, cet homme heureux.
Ses yeux, il avait des jardins et des châteaux. De son cœur jaillissaient des princesses et des jets d'eau. Des enfants qui riaient et qui faisaient du vélo. J'avais devant moi un homme heureux. Ça se voyait, se sentait, c'était clair comme de l'eau. Il n'était pas pareil, il brillait comme un soleil. J'en avais les larmes aux yeux. J'avais devant moi un homme heureux. Faut penser si je m'en souviens de ce gars qui avait l'air de rien, à part ses ailes, à ses souliers. Bon, on s'est assis sur le trottoir, les gens défilaient sans nous voir. Je ne suis pas allé travailler. Et il m'a raconté sa vie, et il m'a expliqué la vie, comme si j'étais son seul ami. Dans ses yeux, il avait des jardins et des châteaux. De son cœur jaillissaient des princesses et des jets d'eau. Des enfants qui riaient et qui faisaient du vélo. J'avais devant moi un homme heureux. Ça se voyait, se sentait, c'était clair comme de l'eau. Il n'était pas pareil, il brillait comme un soleil. Faut dire qu'il me fascinait. J'avais devant moi un homme heureux.
Dans la suite de la chanson, il dit que finalement, il avait comme envie de le tuer et il est parti. Il n'a pas pu supporter. Et après, le lendemain, lui aussi était devenu un homme heureux. C'est ce que dit le chant. Je voudrais écouter, on va écouter maintenant le psaume 32 dans la version de la parole de vie. Et Catherine va nous faire la lecture. Il faut avoir, je pense, la joie de David quand il écrit. C'est peut-être une musique très très joyeuse. Alors, il faut essayer de s'imaginer.
Voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute et pardonne son péché. Voici l'homme heureux. Il ne trompe personne. Et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée. Et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi. Et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Et j'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes. Alors, si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Tu es mon abri. Tu me protèges du malheur. Tu m'entoures de cris de victoire. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Le cheval et le mulet sont stupides. Il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas. Alors rien de mal ne t'arrivera. L'homme mauvais va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Réjouissez-vous à cause du Seigneur. Dansez de joie, vous qui lui obéissez. Criez de joie, vous tous qui avez le cœur pur.
Voilà. Heureux celui qui a le cœur pur. Alors, l'expérience de David est différente de l'expérience de Will Smith dans le film La recherche du bonheur. Will Smith, c'était quelques minutes de bonheur. Mais là, on voit un bonheur qui dure, d'une marche avec Dieu heureuse, qui se prolonge jusque dans l'éternité. Parce que c'est le bonheur qui vient de Dieu. C'est le bonheur qui vient de Dieu. Le bonheur du pardon a quelque chose de scandaleux. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup, a dit Jésus. Et Dieu a beaucoup, beaucoup pardonné à David. David était sous la loi de Moïse et il était roi d'Israël, il était juge de son peuple, et cet homme, selon le cœur de Dieu, est tombé très très bas. Vous le savez, cette histoire en 2 Samuel 12, il a fait la convoitise d'une femme, il a commis l'adultère, il a commis un crime, il a fait tentative de corruption, abus de pouvoir, la totale. On ne peut pas imaginer la totale. Mais le texte de 2 Samuel dit qu'il avait confessé son péché devant Nathan, qui le pointait du doigt. Et à l'instant même, Nathan lui dit, l'Éternel pardonne ton péché. Il n'avait même pas eu besoin d'aller au temple pour entendre, offrir un sacrifice pour entendre ses paroles. Quand on regarde ce texte et la suite du texte, il faut reconnaître et bien savoir que le pardon de Dieu ne nous dédouane pas de notre responsabilité. David a dû subir certaines... il était très mal conduit et il va y avoir des conséquences dans sa vie. Sa vie va prendre une autre tournure après cela. Mais David a reçu le pardon de Dieu. Et alors, est-ce que le bonheur de ce pardon est pour tous? Alors, on est toujours dans cet épître de la tension entre les juifs et les non-juifs. Les juifs, à ce moment-là, étaient beaucoup plus nombreux que les chrétiens. Et tous les chrétiens en vue, tout ce qui était, que tout le monde connaissait, ils étaient juifs d'origine. Et est-ce que ce bonheur est pour les non-juifs aussi? C'est ce que veut absolument s'appliquer à démontrer Paul, et il le fait dans le passage suivant. Verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Que pour les juifs ou également pour les non-juifs? Car nous disons, pour Abraham, la foi lui fut comptée à justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée à justice? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis. Ainsi, il est le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Il est aussi le père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Donc Paul explique très clairement que Abraham a reçu la justification par Dieu sur la base de sa foi, il n'était pas circoncis à ce moment-là. La circoncision qui marque la famille d'Abraham n'existait pas. Et c'est parce que il a été justifié par la foi que la circoncision a été mise en place. Donc il y a un ordre chronologique ici que se plaît à souligner Paul. Et donc il résume. Il est père des incirconcis qui vont croire et il est père des circoncis qui ont la même foi qu'Abraham. Jésus a dit aux Juifs, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. 1 Jean chapitre 8, verset 39, vous savez, quand les Juifs, toujours fiers d'eux-mêmes et fiers d'Abraham, lui disaient, nous avons Abraham pour père. Jésus leur répond ça. Et quelle œuvre d'Abraham? Il est question, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus-Christ. La foi est plus ancienne que la circoncision. 13 et 15. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. La justice par la loi ne verra pas la promesse de Dieu à Abraham. Quand la justice est arrivée, la loi est arrivée par Moïse 400 ans après Abraham. Et Abraham a vécu sa vie justifiée par la foi. Et il n'avait pas à face à la loi. La loi fixe des règles et la transgression des règles signifie la chute. Lévitique 18:5 dans l'épître aux Galates, Paul résume cela par ce verset de Lévitique 18:5: celui qui met en pratique la loi vivra par elle. Et donc Abraham n'aurait jamais pu satisfaire de son temps les exigences de la loi parce qu'il était pécheur et il a fait de grosses gourdes, surtout dans sa vie de couple. Il a fait de grosses bêtises. De ce côté-là, le couple Abraham-Sara ressemble à tous les couples. Et il n'aurait pas pu avoir cette promesse et en même temps être sous la loi. Les deux ne sont pas compatibles entre eux. Et donc, la justice par la loi ne peut pas voir les promesses de Dieu à Abraham. Versets 16 et 17. Donc c'est par la foi. C'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Abraham avait une promesse pour toute sa descendance, Il est le Père de tous les croyants devant nous, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est plus grand que la mort, celui qui est le Créateur de la vie. Il est notre Père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Le bonheur du pardon est pour tous. Le bonheur du pardon est pour tous, que l'on soit juif ou que l'on ne soit pas juif, en particulier et en général, c'est valable. Alors maintenant, un bel exemple de foi qui nous est donné. Cette foi, c'est quoi concrètement? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est la foi? Et c'est très intéressant de regarder ce que dit Paul en poursuivant sur l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Verset 18, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Voilà un petit peu le fonctionnement de la foi. Espérer là où il n'y a pas d'espoir. Alors, vous connaissez l'histoire de Genèse chapitre 15. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir une récompense. Et Abraham lui répond, mais quand bien même j'aurai une récompense, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de descendance, à quoi peut-elle me servir? À quoi cela va-t-il servir? Et Dieu l'amène dehors, il fait nuit, il y a la voûte étoilée, et Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles, essaye de les compter, si tu peux. Telle sera ta postérité. Et il est écrit, Abraham crut, et celui a été compté comme justice. Compté, c'est le terme de comptabilité. Ça lui a été, dans le second, c'est imputé à justice. On a peut-être plus l'habitude de ce mot. Ça a été compté, mis à son compte, comme quoi, voilà, Abraham est un juste. Parce qu'il avait cru Dieu. La foi a un côté irrationnel qui échappe à notre contrôle. Ça dépasse un petit peu notre raison. Mais Dieu est plus grand que nous. À un moment, il faut lui faire confiance. Et c'est là où intervient la foi. Espérant contre toute espérance. Des versets qui suivent. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais, face à la promesse de Dieu, il ne douta pas avec incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Une foi réaliste. Une foi réaliste. Abraham n'a pas fait comme si il n'était pas vieux. Il n'a pas fait comme si Sarah, sa femme, était ménopausée depuis bien longtemps. Il avait une parfaite conscience de cette réalité. Mais, autant il était certain que physiquement son couple ne pouvait pas espérer avoir d'enfant, autant il avait la certitude que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Et c'est ça la foi. Pourquoi? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui le Créateur du salut. Le pardon de Dieu, la justice de Dieu, Dieu peut la donner. Ça nous est inaccessible, mais Dieu peut la donner. Une foi réaliste, donc. Et les derniers versets, versets 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté à justice. Donc, c'est aussi à cause de nous, à qui elle sera comptée aussi. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. une foi pour le salut. Une foi qui est pour le salut. Abraham a cru qu'il aurait une postérité, il a reçu le salut pour cela. Et la vraie postérité d'Abraham, celle qui se compte en milliers de millions et qu'il est impossible de compter, est celle qui reçoit le salut. Alors, avoir la vraie foi, ce n'est pas avoir la foi, je vais trouver une femme, une épouse, ce n'est pas avoir la foi, je vais avoir des enfants, ce n'est pas avoir la foi de guérir d'une maladie, ce n'est pas avoir la foi de réussir dans la vie et d'avoir de l'argent. Avoir la foi, la vraie foi, c'est la certitude d'être juste par le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que dit Paul ici. Nous croyons en celui qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, livré par nos offenses et ressuscité par notre justification. C'est ça la foi d'Abraham, c'est la foi qui sauve ces celles-là. Alors, pour ce qui est des autres besoins, Dieu le sait. On a lu le psaume 32 tout à l'heure. Il est rempli de promesses. Au verset 7, « Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de victoire. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. L'homme mauvais m'a beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Réjouissez-vous à cause du Seigneur, dansez de joie, vous qui lui obéissez, criez de joie, vous tous qui avez le cœur pur. Pour le reste de nos besoins, Dieu sait de quoi nous avons besoin et il prend ses enfants en charge. Quelles applications? Première application, trouver le vrai bonheur par la vraie foi. J'ai appelé ça, trouver le vrai bonheur par la vraie foi. Dieu appelle l'église de Rome. L'église de Rome était constituée de chrétiens qui, l'apôtre dit, qu'ils étaient appelés. Donc il y a un appel de Dieu. Et trouver le vrai bonheur, on cherche tous le bonheur, mais vers quel bonheur sommes-nous en train de courir? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Quel est le but que l'on poursuit? Quel est le bonheur auquel on aspire? Est-ce que c'est le bonheur de quelques minutes de film de la recherche du bonheur? Ou est-ce que c'est le bonheur de David qui reçoit le pardon de Dieu? Le vrai bonheur, c'est celui que Dieu donne et qui dure pour l'éternité. Quelqu'un peut-être dira, c'est pas pour moi, je suis pas digne de ce bonheur-là. Personne n'en est digne. J'ai trop péché. Moi, j'ai pas péché autant que David. Trouver le vrai bonheur par la vraie foi. La vraie foi qui mène au pardon, qui mène au bonheur. C'est de croire en Jésus-Christ. Il y a le faux christianisme qui recherche la prospérité, qui recherche le confort, qui recherche le lien social, qui fait comme les autres. Et c'est facile quand on grandit dans une ambiance chrétienne, dans une famille chrétienne, que de être comme un chrétien, mais pas un vrai chrétien. Pourquoi ? Le vrai christianisme, c'est celui qui veut s'éloigner du mal. Il veut s'éloigner du mal parce qu'il a la crainte de Dieu. C'est Job qui nous enseignait ça. Et il recherche le pardon. Et il croit ce que Dieu dit au sujet de Jésus-Christ et il place sa confiance dans Jésus-Christ pour le salut de son âme. Des milliers et des millions l'ont fait avant nous et ont expérimenté ce salut avec David. Ils ont expérimenté le psaume 32. Trouver le vrai bonheur par la vraie foi. Et Dieu lance un appel, même ce matin, à trouver ce bonheur, ce vrai bonheur par la vraie foi. Alors, j'ai noté aussi retrouver la foi. On peut avoir perdu ce bonheur dont il était question dans le chant de Béco, là, cette personne qui rayonne de joie et qui est tellement impressionnante que dans la chanson, il s'arrête et il le contemple et il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars ?» On peut avoir déraillé dans la foi, on peut être faire une sortie de route. Des fois, on est sur le chemin, puis on fait une sortie de route, on se retrouve dans le fossé, et il faut remettre la voiture sur la route et repartir. Alors, est-ce qu'on court après le faux bonheur, celui que le monde donne, et on a perdu à ce moment le vrai bonheur, celui que Dieu donne, hein? Vers quel bonheur je cours? Alors, on va avoir une chanson maintenant. Pardon, Seigneur, pardon. On va la chanter ensemble. Je vais demander à Morel d'attraper la guitare. On pourra avoir un moment de prière après. Et puis on chantera « Je l'ai trouvé tout ensemble ».